bien, chers amis, chers camarades, bonjour à tous et toutes, et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui dans cette fête lyonnaise de lutte ouvrière. On a changé de lieu, mais nous avons conservé l'ambiance de cette fête fraternelle et autant d'occasions d'échanges et de débats dont on a beaucoup besoin en ce moment. En décrétant le pass sanitaire obligatoire cet été, Macron a fait une opération politique. À 8 mois de la présidentielle, il a voulu affirmer qu'il était un chef à poigne. Il a surtout cherché à faire oublier que depuis 18 mois, rien n'a changé dans les hôpitaux. Pas d'embauche de personnel supplémentaire, ni rouverture de lits supprimés. En imposant son pass sanitaire, il a créé un nouveau motif pour licencier ou suspendre sans salaire ceux qui refusent de se plier. Cela s'applique depuis cette semaine au personnel des hôpitaux et des établissements de santé, mais cela concerne des milliers de travailleurs dans beaucoup de secteurs. Cette loi sanitaire, elle donne des moyens supplémentaires aux patrons pour nous contrôler. Elle lui donne le moyen de pression supplémentaire sur la vie des travailleurs. Macron et les patrons veulent nous habituer à obéir pour nous faire trimer davantage. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, même si nous sommes convaincus que la vaccination est un progrès qui permet de combattre bien des épidémies et des maladies, nous avons dénoncé ce pass sanitaire obligatoire et cette vaccination à coup de trique. Au cours de l'été, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer le mépris ressenti et les méthodes autoritaires. Bien sûr, il n'y avait pas que des travailleurs dans ces cortèges et il y avait beaucoup de confusion dans les revendications exprimées. Les travailleurs ont bien d'autres revendications à mettre en avant, eux qui font tout tourner dans la société et les travailleurs qui doivent demander des comptes aux irresponsables qui dirigent la société. Nous devons commencer par exiger des moyens dans les hôpitaux. Il faut recruter, former en masse et augmenter le salaire des hospitaliers. Et nous devons aussi exiger le maintien intégral des salaires, quels que soient les aléas de la production. Pendant des mois, l'État a payé le salaire à la place des patrons, à travers ce système de chômage partiel. Pour les patrons, c'était la garantie de retrouver une main-d'œuvre formée sans débourser un seul centime. Mais pour nous, les travailleurs, en CDI, le chômage partiel, ça signifiait plusieurs centaines d'euros en moins par mois. Quant aux précaires et aux intérimaires, eh bien, les périodes d'arrêt de production signifiaient tout simplement un licenciement. Et alors même que la crise sanitaire n'est pas finie, elle se transforme en crise économique. Chez Airbus ou chez Renault, les plans de licenciement sont maintenus alors que ces groupes sont redevenus bénéficiaires. Dans l'automobile, la pénurie de puces électroniques ou autres composants ont mis à l'arrêt plusieurs usines un peu partout dans le monde. Cette pénurie, elle est provoquée par l'anarchie de la concurrence, où chaque patron agit pour son propre compte, en aveugle. Les patrons, eux, ils se rattrapent en augmentant les prix, en retardant leur livraison, et bien sûr en faisant pression sur les salaires et sur les intérimaires. Mais nous, nos factures, on ne peut pas les décaler. Donc si nous nous taisons, eh bien c'est nous qui payerons, alors que c'est nous qui faisons tout tourner. Donc nous n'avons pas à être à la disposition des patrons en faisant des journées de 9 ou 10 heures quand les pièces sont arrivées et au contraire se voir imposer des RTT ou des congés quand elles manquent. Nous ne devons pas accepter de perdre de l'argent sous prétexte de chômage partiel. Nous devons refuser le licenciement des intérimaires et des précaires. Ces pénuries, les manques de matières premières, la flambée des prix engendrée par la spéculation se traduisent par le retour de l'inflation. L'essence, le gaz, les loyers, les matériaux de construction, tous les prix sont repartis à la hausse. Et avec l'augmentation annoncée du prix des céréales, c'est la nourriture de base, la farine, les pâtes et le pain qui va augmenter. Par contre, les salaires, eux, n'augmentent pas quand ils ne sont pas tirés vers le bas. Même le gouvernement a dû reconnaître, face à la pénurie de main-d'œuvre dans quelques secteurs comme l'hôtellerie et la restauration, que les salaires étaient trop bas. Rassurons-nous, cet éclair de lucidité n'a pas conduit Bruno Le Maire à donner le moindre coup de pouce au SMIC, ni à contraindre les patrons à augmenter les salaires. Le SMIC, même après ses 34 euros bruts d'augmentation annoncée, reste inférieur à 1200 euros par mois, à 1300 euros par mois, et on ne peut pas vivre avec ça. Et non seulement Bruno Le Maire n'impose pas aux patrons d'augmenter les salaires, mais la situation de nos salaires va être aggravée par la nouvelle réforme de l'assurance chômage, qui sera applicable au 1er octobre et qui va rendre plus difficile d'acquérir ou de recharger des droits au chômage. Pour beaucoup de précaires et de chômeurs, cette loi entraînera une forte baisse des allocations. C'est encore une arme donnée aux patrons pour tirer tous les salaires vers le bas, en leur fournissant de la main-d'œuvre forcée d'accepter des salaires au rabais. Et ce qui nous menace, ce n'est pas seulement une inflation à 2% par an, comme depuis 30 ans. Cette inflation qui grignote petit à petit notre niveau de vie. Ce qui nous menace plus clairement, c'est une crise comme celle qui frappe le Liban aujourd'hui ou celle qui a frappé la Grèce il y a 10 ans. Alors nous, travailleurs, nous n'avons pas d'autre voie que de nous battre. Nous devons intervenir nous-mêmes pour une augmentation des salaires et leur indexation sur l'inflation réelle. Pour les patrons, tous les prétextes sont bons pour aggraver l'exploitation. Pour eux, la pandémie, les pénuries de pièces, les fermetures de frontières, les soubresauts de l'économie sont autant d'occasions d'aggraver la guerre de classe qu'ils nous mènent. Et à chaque fois, ils envoient des armées d'experts, de journalistes ou d'économistes pour justifier ces coups bas. Aujourd'hui, par exemple, ils présentent l'augmentation temporaire du nombre d'intérimaires comme un signe de la reprise. Eh bien, face à ces attaques, face à ces mensonges, les travailleurs ne doivent pas rester inactifs et spectateurs. Nous devons profiter de chaque occasion pour mettre en avant nos intérêts. Et une occasion nous est fournie par l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire à faire grève le 5 octobre. Cet appel vient bien tard. Il vient après un silence assourdissant des principales organisations ouvrières qui ont laissé les travailleurs révoltés par le mépris de Macron, sans autre perspective que de défiler derrière des anti-vax ou l'extrême droite. Et cet appel du 5 octobre est noyé dans d'autres, catégoriels. Un jour pour la santé, la semaine dernière, un jour pour l'éducation, un autre pour les retraités. L'objectif de ces directions syndicales n'est pas de préparer une mobilisation unie des travailleurs, mais de montrer au gouvernement qu'il doit compter sur elle. Eh bien, malgré ces limites, nous, travailleurs conscients, nous devons nous saisir du 5 octobre pour propager autour de nous, auprès de nos camarades de travail, l'idée qu'une riposte collective face à toutes ces attaques est vitale. Et ce combat correspond aux intérêts de toute la société. Car la classe qui domine n'est pas seulement parasitaire. Elle est aussi irresponsable et criminelle vis-à-vis de la société. Cette irresponsabilité n'a jamais été aussi choquante, visible dans tous les secteurs. Les chercheurs ont été capables de mettre au point un vaccin contre le Covid en un temps record. Les ingénieurs et les travailleurs de l'industrie pharmaceutique ont pu lancer sa production sans délai. Mais la moitié de l'humanité n'en a toujours pas reçu une dose. Car ces vaccins sont brevetés. Et dans cette société, avant de combattre une maladie, les vaccins sont destinés à rapporter des profits au Big Pharma. Sanofi n'a pas encore réussi à mettre au point le sien, mais personne ne l'oblige à utiliser ses installations disponibles pour produire à prix coûtant les vaccins qui manquent tant en Afrique et en Asie. Et cette absence de vaccination peut-elle faire apparaître de nouveaux variants? Peut-elle prolonger sans fin la pandémie? Sanofi, Pfizer, tout comme Macron et Biden s'en fichent complètement. Car la recherche du profit maximal caractérise l'économie capitaliste depuis sa naissance. Et avec la pandémie, le règne du chacun pour soi et après moi le déluge a atteint de nouveaux sommets. Depuis un an, la fortune des milliardaires français a augmenté de 40%. Les GAFAM, les cinq grandes entreprises du numérique comme Amazon ou Google, dont la puissance s'est amplifiée avec le confinement et la pandémie, ont réalisé une moyenne de 5 milliards d'euros de bénéfices chaque semaine depuis le début de l'année 2021. Et à quoi ont servi ces milliards? À rien d'utile pour la population, ni à construire des hôpitaux, ni à construire des écoles ou des logements neufs, ou renouveler les infrastructures ferroviaires. Et on l'a vu cet été, un État aussi développé que la Californie, berceau de ces GAFAM richissimes, est incapable de faire face aux incendies qui sévissent année après année. Cela résulte du délabrement des installations électriques gérées par des compagnies privées, des pompiers sans moyens, de l'absence de système de contrôle ou d'alerte. Amazon est capable de prendre des commandes, rassembler puis livrer à domicile des milliards d'objets dans le monde entier grâce à ses logiciels ultra-performants, mais la Californie est ravagée chaque année par des incendies que les autorités ne peuvent ni combattre ni anticiper. Voilà un résumé brutal du capitalisme. Les extraordinaires moyens de recensement et de planification développés par l'humanité ne servent pas à satisfaire les besoins en préservant les ressources de la planète. Ils servent à la détruire pour enrichir les Jeff Bezos et Elon Musk. Eh bien, cela condamne sans appel ce système capitaliste. Et ce capitalisme, c'est encore et toujours la guerre. Le chaos laissé en Afghanistan par l'armée américaine en est le dernier exemple. 20 ans après son débarquement dans le pays sous prétexte de traquer Ben Laden et de venger les attentats de New York, l'armée américaine le quitte sur une débâcle. Elle qui prétendait apporter par les armes la démocratie et le progrès a mis en place un régime corrompu et haï de la population. Après 2500 morts parmi les soldats américains, plus de 200 000 parmi les Afghans, les États-Unis laissent derrière eux une poudrière. La fraction de la population afghane qui a cru aux promesses occidentales et qui a lié son sort au régime pro-américain est aujourd'hui abandonnée aux talibans. Les femmes se terrent sans savoir si elles pourront poursuivre leurs études ou simplement sortir sans un chaperon. Quant à la majorité des Afghans, dans les villes de province ou à la campagne, ils restent plongés dans la misère. Eh bien, ce qui se passe en Afghanistan doit nous servir de leçon. Car si la France a joué là-bas qu'un rôle secondaire derrière l'armée américaine, c'est elle qui est à la manœuvre au Mali et dans la zone du Sahel. Pour défendre les intérêts de Total, Areva, Bolloré et compagnie, le gouvernement français joue aux apprentis sorciers en déstabilisant cette vaste zone du Sahel. Eh bien, nous devons condamner ces interventions militaires. Nous devons empêcher les gouvernements d'agir en notre nom. Troupes françaises hors d'Afrique. Et non seulement les dirigeants occidentaux sèment le chaos dans le monde avec leur guerre, mais ils ferment leurs frontières aux réfugiés qui fuient pour sauver leur vie. Eh bien, nous, travailleurs d'Europe, sommes doublement concernés. D'abord parce qu'il est illusoire de vivre en paix dans un monde rendu invivable pour des millions d'êtres humains. Et puis parce que les milliardaires au profit de qui on opprime les peuples des pays pauvres sont les mêmes qui nous exploitent et nous appauvrissent ici. Les victimes de l'impérialisme qui frappent à nos portes ne sont pas des ennemis, mais des alliés, des frères et des sœurs de combat. La première chose à faire est de leur tendre la main. C'est pourquoi nous revendiquons la liberté d'installation, la liberté de circulation pour tous ces migrants, tous ces réfugiés, qu'ils fuient la guerre, la dictature ou la misère. Et l'argent existe pour fournir un logement, un emploi, un accès à la santé pour tous, quelle que soit notre origine, notre nationalité, sans avoir à partager la misère entre pauvres. Mais pour cela, il faut prendre sur les profits des capitalistes. Bien sûr, sauvegarder notre droit à l'existence, enrayer cette marche infernale du capitalisme vers le précipice, ne pourra pas se réaliser en changeant de président de la République ou de majorité parlementaire. Et je veux en venir, évidemment, à cette semaine où, ça ne vous a pas échappé, la campagne électorale s'est accélérée pour les présidentielles. Les uns après les autres, les candidats se mettent en campagne. Des femmes et des hommes qui ont servi le système durant des années essayent de se présenter comme des nouveautés. Miracle de la campagne électorale, on recycle, on oublie. Tous les 5 ans, la machine à fabriquer des illusions se remet en route. À ce jour, on ne sait pas encore quels chevaux s'aligneront finalement sur la ligne de départ. De Zemmour à Philippot, les prétendants sont nombreux pour doubler Le Pen sur son extrême droite, déversant toujours plus de stupidité raciste et communautariste. Les autres ambitieux de la droite ne savent toujours pas comment ils vont se départager et encore moins comment ils vont se différencier de Macron. À gauche, Hidalgo, Mélenchon, Roussel, Montebourg se sont déclarés, tandis que les politiciens à la casaque verte espèrent que chaque nouvelle catastrophe climatique vienne leur servir de marchepied vers les salons dorés du pouvoir. Chacun vise sa part du marché électoral en espérant mordre sur celui du voisin. Ils sortent tous de leur chapeau quelques mesures qu'ils s'empresseront d'oublier une fois élus. Eh bien, les travailleurs ne doivent pas tomber dans ce panneau. Il n'existe pas de bon candidat susceptible de mieux gérer le système capitaliste. Celui-ci ne fonctionne bien que pour les riches. Il ne peut engendrer autre chose que la concurrence, les crises et le pillage. Il nous condamne aux guerres, à la destruction de la planète. Pour enrayer cette machine infernale, pour changer notre sort, pour mettre enfin les immenses moyens de recensement, de production et de transport au service de la collectivité, il n'y a pas d'autre voie que d'arracher le contrôle de la société aux capitalistes qui décident de tout. Seuls les travailleurs eux-mêmes, parce qu'ils sont indispensables, parce qu'ils font déjà tout tourner, parce qu'ils n'ont pas d'autre intérêt à défendre, peuvent réaliser cette transformation. Mais nous ne le pourrons pas par un bulletin de vote, mais par des luttes, par des mobilisations, en retrouvant confiance dans notre force collective. Et c'est pour affirmer cela que Nathalie Arthaud est candidate aux élections présidentielles. Votez pour elle. Voter pour elle, ce sera affirmer que le seul camp porteur d'avenir est celui des travailleurs. Et ce sera affirmer que le seul programme qui vaille pour nous, ce n'est pas un programme électoral, mais un plan de lutte. Eh bien, camarades, nous devons profiter des mois qui viennent, utiliser cette période où les discussions politiques sont un peu plus nombreuses, un peu moins difficiles, les oreilles un peu plus ouvertes, pour convaincre nos voisins, nos collègues, nos amis, qu'il n'existe pas de sauveur suprême, que rien ne sera donné aux travailleurs s'ils ne vont pas l'arracher. Nous devons aussi les convaincre que le meilleur moyen de faire avancer notre camp est de participer activement à cette campagne de Nathalie Arthaud. Les façons sont diverses. Faire de la publicité pour sa candidature, réunir ses voisins autour d'un café pour parler du programme, appeler à voter pour elle dans notre famille et à notre boulot. Bien sûr, Nathalie utilisera toutes les occasions offertes par les médias pour défendre ce programme, mais notre campagne est et sera d'abord militante. Comme cette fête, elle reposera sur l'enthousiasme, la détermination que chacun d'entre nous pourra y déployer dans les prochains mois. Alors, bon courage pour mener toutes ces discussions et pour l'heure, profitons des instants de la fête pour se charger en énergie, en arguments et en fraternité.